Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Franck de l'association Vivre Ensemble Éducation. Elle vient nous parler à l'occasion de la sortie d'un dossier d'enfance et d'inégalité. Ce dossier s'intitule « Leur avenir commence aujourd'hui ». Alors Isabelle, pourquoi « Leur avenir commence aujourd'hui » ?
Mais parce qu'on a voulu mettre l'accent sur le thème de la pauvreté vécue par les enfants. Et c'est vrai que c'est une pauvreté qui est particulièrement révoltante peut-être, parce que d'une part les enfants, ils sont fragiles et on ne peut pas les culpabiliser comme on culpabilise parfois les adultes d'être pauvres. Et en plus, cette pauvreté compromet leur avenir. Et donc, si on veut avoir demain des adultes qui soient épanouis, qui soient actifs dans la société, qui aient une vie digne, eh bien, il faut vraiment s'attaquer à la pauvreté des enfants, parce que c'est dans la petite enfance que beaucoup de choses se jouent déjà.
Donc en Belgique actuellement, on peut dire qu'il y a un enfant sur cinq qui vit dans une famille dont les revenus sont en dessous du seuil de pauvreté. Et donc dans ce dossier, avec l'aide de nombreux exemples, de témoignages, vous développez trois aspects de la pauvreté des enfants. Dont on va parler tout à l'heure, comment vous avez déjà réalisé cette étude ?
C'est-à-dire qu'on a commencé par travailler en équipe, donc l'équipe de Vivre Ensemble sur ce thème, et on a choisi d'aborder trois sujets, qui ne sont peut-être pas les seuls certainement, ni peut-être les principaux, mais trois sujets qui nous paraissaient en tout cas importants, qui sont la petite enfance, puisque comme je l'ai dit, la lutte contre la pauvreté doit démarrer très très tôt. Ensuite, l'école et puis les loisirs. Et donc, pour rédiger ce dossier, je suis partie à la rencontre d'une série d'associations en Wallonie et à Bruxelles qui travaillent avec les enfants ou avec les familles pour découvrir un petit peu quels étaient les principaux problèmes qu'elles rencontraient et quels étaient les défis qu'elles rencontraient et ce qui leur paraissait important de mettre en avant en termes de revendications ou de propositions politiques également.
Donc je précise, des associations de lutte contre la pauvreté.
Oui, tout à fait. Donc ce sont des associations de terrain, ça peut être des haltes-garderies, ça peut être des écoles de devoirs, ça peut être des associations qui accompagnent les jeunes mamans en difficulté, enfin toutes sortes d'associations comme ça qui sont en contact quotidien avec ce problème.
Donc j'ai d'emblée envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus frappé lors de la rédaction de ce dossier ?
Mais ce qui a frappé, c'est d'abord un thème central, c'est la confiance, confiance en soi, donc notamment au niveau scolaire, l'importance que les enfants soient accueillis, respectés, qu'on développe cette confiance en soi. Et aussi le fait dans les pistes d'action qu'il y a beaucoup de choses qui, bien sûr, il faut faire beaucoup de choses au niveau politique, mais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire avec peu de moyens, avec simplement la sensibilisation à ce problème-là et de l'attention, du respect, du dialogue, notamment au niveau des écoles. On peut déjà faire beaucoup de choses avec peu de moyens finalement.
Parce que vous parlez des enfants, mais donc qui dit enfant dit famille. Finalement, cette pauvreté, elle touche d'abord les familles. C'est d'abord la pauvreté des parents qui est en jeu. Cette pauvreté des parents, comment vivent ces familles
Mais ce sont des familles qui donc soit ont un petit salaire, soit ont des problèmes de surendettement, soit bénéficient d'une allocation de chômage ou du revenu d'intégration sociale et qui, tant bien que mal, essayent de faire face aux problèmes quotidiens qui sont très importants puisqu'il n'y a aucune marge de manœuvre au niveau du budget. Donc la moindre activité à l'école, le moindre imprévu devient vite une catastrophe. Et donc ce sont des familles qui sont continuellement dans un stress de savoir comment on va payer la facture du chauffage, est-ce qu'on peut reporter le paiement du loyer pour payer l'excursion à l'école ou même la cantine à midi. Donc ce sont des familles qui dépensent énormément d'énergie finalement à gérer le quotidien et à gérer des choses qui pour beaucoup de familles sont évidentes et dont on ne se rend même pas compte qu'elles peuvent être des problèmes.
Et donc face à toutes ces difficultés familiales, relationnelles, vous parlez beaucoup de portes fermées, que les enfants se retrouvent souvent devant des portes fermées. Quelles sont ces portes fermées ?
Oui, on a choisi pour faciliter un peu l'approche du thème de parler des portes justement, oui, des portes fermées, des portes, des ouvreurs de portes et des portes à ouvrir. Donc c'est vrai quand on voit des enfants, on se dit pour eux, tout est possible, toutes les portes sont ouvertes, ils peuvent avoir plein de projets, l'enfance, c'est le moment où on peut rêver. Et puis on se rend compte évidemment qu'avec la pauvreté, mais toutes les portes ne sont pas ouvertes à tous les enfants. Il y a des portes fermées déjà très très petites, et parfois simplement les portes de la vie. Quand on voit les chiffres notamment des accouchements prématurés ou de la mortalité durant la première année, clairement ces chiffres sont liés au taux de pauvreté. Donc sur Bruxelles par exemple, si on classe les communes par taux de pauvreté, eh bien, le taux d'accouchement prématuré augmente avec le taux de pauvreté. Donc des choses qui paraissent liées à un mauvais coup du sort, comme la mort subite des nourrissons, eh bien, on se rend compte que c'est lié aussi au niveau social, au fait que les parents aient un emploi ou pas, ce qui a priori est surprenant, mais finalement ça oblige à faire remonter les causes au niveau social et global plutôt qu'au niveau de la famille elle-même. Et donc voilà, ces portes au niveau de la santé, on le disait, il y a les portes fermées aussi au niveau de l'ouverture au monde, puisque beaucoup d'enfants dont les parents travaillent vont en crèche ou chez une gardienne. Quand la maman est en situation de pauvreté, qu'elle n'a pas d'emploi, qu'elle est étrangère, qu'elle est isolée, eh bien l'enfant ne va pas avoir ses premiers contacts sociaux avec d'autres enfants et avec d'autres adultes, qui font que l'entrée en maternelle va bien se passer et puis qu'après l'entrée en primaire va bien se passer. Et donc là, c'est plein de choses à promouvoir, comme les haltes-garderies, des places dans les crèches, les gardiennes, etc. Alors ensuite, il y a des portes fermées à l'école aussi, puisque l'école est faite par des gens de la classe moyenne supérieure et pour des gens de la classe moyenne supérieure, j'ai envie de dire. Et donc, il y a un grand fossé entre les familles en situation précaire et l'école. Donc, il y a une incompréhension, il y a des jugements, il y a des a priori qui font que les enfants ne se sentent pas accueillis, reconnus à l'école, que la communication entre les parents et l'école est très difficile. Et que voilà, les enfants, les portes du savoir leur sont fermées par là. Et forcément, après, c'est l'emploi et c'est tout l'épanouissement social qui en pâtit. Et alors, une troisième porte...
La troisième porte, on va l'ouvrir après notre première pause musicale avec Renaud, « C'est quand qu'on va où ?»
Je suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, bien la main se dit goulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin, quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures, non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me garder comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, mais lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, voter, ça serait interdit. Ainsi l'école, ça rendait les hommes libres et égaux. Le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout.
Nous retrouvons Isabelle Franck pour parler d'enfance et d'inégalité sociale. Et nous parlions des portes à ouvrir pour que les enfants de familles pauvres puissent s'élancer dans la vie.
Oui, donc la troisième porte après la petite enfance et l'école, ce sont les loisirs. Et c'est vrai qu'a priori, ça ne viendrait peut-être pas spontanément à l'esprit, mais quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que les loisirs, le jeu, les voyages, partir à la mer, ben, ça fait partie intégrante de la vie d'un enfant et que c'est un droit de l'enfant. C'est aussi pour l'enfant une façon de rencontrer, de découvrir, de se découvrir, de dépasser ses limites, par exemple en faisant du sport. Et donc c'est quelque chose de très très important aussi pour ouvrir des horizons aux enfants, parce que souvent ils sont un peu enfermés au sens propre dans une cité ou dans un appartement et ils n'ont pas la possibilité de rêver à une vie différente de ce qu'ils connaissent autour d'eux. Donc les loisirs, c'est aussi pouvoir justement ouvrir ces portes vers un avenir qu'a priori ils ne peuvent pas imaginer.
Je lis ici dans votre dossier le témoignage de Didier Somzé, qui est un bénévole au sein d'une petite ASBL qui s'appelle Jeunesse Sportive en Pierreuse, hein, dans un quartier populaire de Liège. Et donc il dit ceci, « Notre société se construit et se vit de plus en plus, souvent sur l'image du battant. Donc on a dans la catégorie masculine ce gagnant de la vie qui possède un look de gendre idéal, un nom de famille bien de chez nous, des revenus financiers élevés, un statut professionnel valorisant, une intégration sociale en béton, une vie familiale qui fait rêver, ainsi qu'une vie de loisirs branchée. » Et cette tendance ne diminue pas, elle augmente. Et donc, il lui dit clairement, je m'insurge de plus en plus clairement contre cette transformation de la vie en un concours où chaque gagnant est entouré de perdants. Donc, dans ce petit club de sport, il y a 250 jeunes de tous horizons culturels qui viennent. Et il explique finalement dans ce témoignage combien c'est important dans la vie de ces jeunes jouer sur un terrain de foot.
Oui, c'est sûr, parce qu'en jouant au foot, on apprend aussi qu'au foot, il y a des règles, hein, et que donc on ne tape pas sur son voisin quand il y a une passe qui ne plaît pas. Et donc à travers le jeu, à travers le sport, ce sont des valeurs qui passent aussi. Et Didier Somzé le dit très bien, on apprend à vivre ensemble, à respecter des règles, à se respecter les uns les autres et aussi à accueillir tout le monde. Et c'est vrai que dans les associations, on accueille justement tous ces perdants, tous ces gens qui ne correspondent pas au modèle imposé dans notre société et on leur permet pas nécessairement de mieux correspondre au modèle parce que c'est pas nécessairement positif, mais en tout cas de tracer leur voie à eux et dans le respect et avec toutes les chances, quoi.
Alors toujours sur cet aspect loisir de la question, il y a une autre phrase très forte qui survient là dans le dossier d'une maman qui dit « Rien que la survie, c'est pas une vie ». Ça souligne aussi combien on se focalise souvent sur la survie quotidienne des colis alimentaires, aller dans une brocante pour acheter des jouets ou dans un vestiaire pour acheter des vêtements de seconde main. Mais la vie, c'est pas que ça, finalement. Il y a aussi
C'est pour ça que je disais qu'on n'y pense pas spontanément, pas au loisir, mais c'est très, très important, que ce soit pour les enfants ou pour les parents aussi, d'ailleurs. Et c'est vrai que les familles qui vivent dans la pauvreté, elles sont, comme je disais tout à l'heure, constamment dans la survie, dans gérer, arriver même à mettre quelque chose dans l'assiette, c'est parfois un problème. Et voilà, tous, nous, même quand on a des moyens suffisants, il y a un moment, on a besoin de décompresser, on a besoin d'aller au cinéma, de s'acheter un nouveau pantalon ou de décompresser un petit peu comme ça en sortant du quotidien. Et ces familles, elles y ont droit aussi et souvent leurs moyens ne leur permettent pas. Donc c'est très très important pour la santé mentale simplement. Imaginez une maman qui est constamment dans le stress avec ses enfants, qui est seule avec ses enfants et qui jamais ne peut prendre un moment pour elle et se reposer un petit peu, ses enfants vont en pâtir certainement aussi.
Donc dans ce domaine des loisirs, les associations finalement de lutte contre la pauvreté peuvent offrir beaucoup de ressources.
Oui, bon, il y a plein d'associations qui, en plus de leurs activités habituelles ou les activités pour lesquelles elles sont créées, je pense à des maisons médicales, des écoles de devoirs ou des maisons de quartier, eh bien, organisent soit des excursions, soit carrément des séjours à la mer, en Ardennes, pour les familles, justement, pour que les familles puissent se retrouver dans un contexte autre que leur quotidien, qui est souvent difficile, et passer un peu de bon temps, se retrouver parfois en famille, parce que parfois les enfants sont placés, et ces séjours sont l'occasion de rassembler les parents et les enfants. Et il y a un témoignage aussi qui m'avait beaucoup frappée, c'était dans une maison, de ATD Carmonde, où les familles allaient en vacances, et la maman qui disait, c'est la première fois qu'on me demande ce que je veux faire, c'est la première fois que je peux faire du vélo avec mon fils, c'est la première fois que, et rien que le fait d'être accueilli dans cette maison qui était bien aménagée, pour elle c'était un signe de respect et c'était quelque chose d'extraordinaire.
Oui, oui, donc très important cet aspect de la question, donc autre chose que cette survie matérielle quotidienne. Nous allons enchaîner avec notre deuxième pause musicale, Bienvenue au monde, par le chanteur Soul.
Toi qui auras faim, toi qui n'auras rien, qui manquera de soins, bienvenue au monde. Toi qui voulais tant, le sourire d'une maman, elle partira en deux secondes. Bienvenue au monde, bien, 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 bienvenue au monde, bien, 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 bienvenue au monde. Tu verras les tiens mourir un par un dans ce bougimonde. Bienvenue au monde, tu grandiras sans instruction, sans aucune éducation, ta terre ne sera pas féconde. Bienvenue au monde, bien, 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 bienvenue au monde, bien, 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 bienvenue au monde. Comme un arrière-goût de tristesse qu'on voudrait chasser mais qui reste. Quand ils viennent au monde, y'a comme un grain d'hypocrisie. Quand on se dit que bien loin d'ici, on leur dit aussi, bienvenue au monde. Quand ici arrive un enfant, on le couponne tendrement, sans se demander s'il survivra aux années. Bien, 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 bienvenue au monde. Bien, 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 bienvenue au monde. Pas de boulot, pas d'argent, pas d'argent, pas de médoc, plus d'enfants, plus d'enfants, plus d'avenir, plus d'avenir, plus d'espoir, plus d'espoir, plus de sourire. Quand ils viennent au monde, quand ils viennent au monde, quand ils viennent au monde, quand ils viennent au monde. Bien, 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 bienvenue au monde. Bien, 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 bienvenue au monde. Comme un arrière-goût de tristesse qu'on voudrait chasser mais qui reste. Quand ils viennent au monde, y'a comme un vent d'hypocrisie. Quand on se dit que bien loin d'ici, on leur dit aussi, bienvenue au monde.
Donc, nous parlons de ces expériences positives et valorisantes pour les familles démunies, ces expériences qu'ils peuvent vivre au sein des associations de lutte contre la pauvreté pour affronter leur quotidien. Donc, nous avons abordé les loisirs, mais il y a aussi toute une partie lors de la petite enfance où justement les associations ou d'autres intervenants peuvent ouvrir alors des portes aux enfants.
Oui, tout à fait. La petite enfance, c'est une période très très importante. Et c'est vrai que dans les politiques, souvent, on se concentre sur l'école et sur à partir de 4, 5, 6 ans. Mais dès la naissance, dès avant la naissance, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et il y a des choses qui existent, hein, au niveau de l'ONE, par exemple, avec les consultations prénatales et les consultations pour enfants. Le problème avec l'ONE, c'est qu'il y a beaucoup de consultations qui se font dans les hôpitaux. Et les personnes les plus fragiles, les plus précarisées ne vont peut-être pas nécessairement faire la démarche d'aller jusque-là. Et donc c'est important de redévelopper la proximité des consultations qui existaient dans le passé, qui existent de moins en moins maintenant, pour que les personnes les plus éloignées justement de tous ces services et des services médicaux eh bien, puissent y accéder le plus facilement possible, aller vers elles plutôt que d'attendre que ce soit elles qui se déplacent. Alors au niveau de tout ce qui est évidemment crèche, place dans les milieux de garde, ça c'est quelque chose de très important à développer aussi. Bon, c'est clair qu'un bébé est bien avec sa maman, mais si la maman elle-même ne va pas bien, si elle est en situation précaire, eh bien c'est important que l'enfant puisse avoir des contacts sociaux dès le plus jeune âge, parce que grâce à ces contacts sociaux, eh bien il va entrer en maternelle de façon plus facile. Il ne va pas découvrir quelque chose qui lui est complètement étranger, il sera déjà habitué à être avec d'autres enfants, à vivre en groupe, à vivre avec d'autres adultes. Et donc c'est toute la scolarité là, qui va démarrer sur un bon pied ou sur un mauvais pied, selon que l'enfant a pu s'ouvrir au monde dès la petite enfance. Alors à l'école, il y a énormément de choses à faire. C'est vrai que c'est un endroit que tous les enfants fréquentent et donc et qui est censé réduire les inégalités sociales. On voit dans la réalité que c'est plutôt le contraire, que les inégalités.
Et on dit souvent que l'école était l'ascenseur social.
Ouais, c'est ça. Donc,
et que ça ne se vérifie plus.
Voilà. Donc grâce à l'instruction, les enfants pouvaient sortir de leur situation sociale, pouvaient grimper les échelles de la société, les marches de la société. Et maintenant, ça ne se fait plus. Et au contraire, on a l'impression que dès le début, on exclut ceux qui ne sont pas directement adaptés à l'école, ceux qui ont des difficultés. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire et notamment de collaborer avec les associations qui sont dans les quartiers et qui connaissent les familles, qui peuvent un peu sensibiliser les enseignants à ces cultures, à ces milieux sociaux qu'ils ne connaissent souvent pas. Et là, avec peu de moyens, il y a moyen de mettre des initiatives sur pied, comme des rencontres avec des parents, des visites chez les parents.
Oui, vous parlez de l'association Welcome Babbelcote à Bruxelles, notamment, qui fait ce genre de travail.
Oui, c'est une association donc, qui se trouve dans un quartier où il y a beaucoup de familles étrangères et qui, justement, aide les enfants à faire leurs devoirs, d'une part, pour leur donner un lieu où travailler, leur donner une aide qu'ils ne trouvent pas toujours à la maison, et qui aide aussi les mamans, parce qu'on se rend compte évidemment que les mamans doivent pouvoir suivre un minimum la scolarité des enfants, que c'est très important pour eux. Et ces mamans ne parlent pas français bien souvent, parce qu'elles viennent de l'étranger, et donc il y a des cours de français ou d'alphabétisation qui vont permettre aux mamans de mieux s'intégrer, de communiquer mieux avec l'école. Et les mamans, là, peuvent être accompagnées par leur tout-petit. Si elles ont des petits-enfants, elles peuvent les amener. Il y a une halte-garderie qui va leur permettre d'apprendre sans avoir l'impression d'abandonner leurs enfants à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ce type d'association qui permet justement à ces enfants qui ont moins de chance au départ de s'accrocher à l'école et parfois aussi d'établir des contacts avec l'école pour faciliter l'intégration des enfants qui ont plus de difficultés.
Donc pour résumer, s'il y a beaucoup de portes qui sont fermées aux enfants de familles pauvres, heureusement, il y a tout un travail qui est fait par des associations de lutte contre la pauvreté, différents intervenants, pour ouvrir ces portes aux enfants de familles démunies. Et qu'est-ce que Vivre Ensemble alors demande plus au niveau politique pour changer les choses ?
Eh bien, tout d'abord, de soutenir ces associations, évidemment, qui font un travail formidable, de favoriser la proximité, donc comme je le disais, de tous ces services. Il y a beaucoup de services qui existent, mais qui ne touchent pas les personnes qui sont les plus loin dans la pauvreté, dans la précarité. Améliorer la formation des professionnels de l'enfance et de la petite enfance. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ces personnes soient sensibilisées aux différentes problématiques sociales pour éviter ces a priori et ces incompréhensions qui font beaucoup de dégâts. Et puis agir, comme j'ai dit, dès la petite enfance, dès la naissance, même avant la naissance, pour éviter ces exclusions qui commencent très, très jeunes et puis qui aboutissent à des adultes qui n'ont pas d'emploi, qui ne sont pas intégrés dans la société.
Voilà, donc finalement, tout le travail de ces associations qui permettent vraiment d'ouvrir tout un champ des possibles à tous ces enfants, c'est vraiment un cadeau pour la vie.
Oui, bien sûr. Quand on voit tout ce qui se fait dans ces associations, tout ce que découvrent les enfants, toutes les portes que ça leur ouvre, ça mérite vraiment d'être soutenu, d'être connu surtout et encouragé.
Donc je rappelle que ce dossier est disponible soit sur format papier, donc on peut le commander auprès de Vivre Ensemble au 02 227 66 80, Soit il est téléchargeable aussi sur le site internet de Vivre Ensemble, www.vivre-ensemble.be. Il s'intitule « Leur avenir commence aujourd'hui, enfance et inégalité sociale ». Et il est vraiment bien fait parce qu'il y a beaucoup de témoignages, de choses pratiques, de petits encadrés qui éclairent toutes les problématiques que nous avons abordées aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Merci Isabelle Franck d'être venue nous parler aujourd'hui de ce sujet si grave.
Avec plaisir.
Et à bientôt.